Raphaël Girardin.
Bonjour. L'Entre-deux-Lacs touché dans sa chair après les inondations d'hier soir. L'eau a laissé place à la désolation. Nous serons en direct de Cressier, dossier spécial à suivre. La culture, elle, reprend toujours plus. 50 concerts et 50 représentations animeront l'été neuchâtelois. Les artistes se produiront du 14 juillet au 22 août à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. France-Portugal, c'est l'affiche du jour à l'Euro 2020 de football. Un match qui aura son importance pour la Suisse, car il décidera qui la Nati affrontera en 8e de finale. Des orages localement forts pourraient à nouveau éclater dès cet après-midi. Des risques de grêle sont toujours possibles. Les températures, elles, indiqueront jusqu'à 25 degrés en plaine et 20 à 1000 mètres. Après le choc, la désolation, la région de l'Entre-deux-Lacs s'est réveillée aujourd'hui sous les gravats et la boue après les violentes inondations d'hier soir. Des impressionnantes précipitations ont provoqué la crue du Ruau hier aux alentours de 19h. Des torrents ont déferlé dans les rues de Cressier et Frochot. Aucune victime et aucun blessé n'ont été signalés. 6 personnes ont toutefois dû être relogées par la protection civile et les dégâts matériels s'annoncent particulièrement importants. David Sanchez, vous êtes depuis ce matin sur place à Cressier. Qu'est-ce que vous avez pu voir dans les rues ?
Vous avez les mots justes, Raphaël. Beaucoup de désolation, mais aussi de la solidarité. C'est une année compliquée pour Cressier. Après l'incendie tragique en début d'année, c'est une nouvelle épreuve pour les habitants de la commune. Nous avons tous vu les vidéos. Ce torrent de boue qui s'est abattu sur le centre de la localité a emporté avec lui des routes, des appartements, des commerces et même des voitures. Ce matin, les gens étaient à pied d'œuvre à coups de pelles, de râteaux et d'aspirateurs à eau pour déblayer les rues et vider les habitations inondées. Les dégâts sont nombreux et étendus. Le chemin du Vieux Moulin, par où est arrivée la vague de boue dans le haut du village, est complètement ravagé. L'eau y coule encore, abondamment d'ailleurs. Et à sa jonction avec la rue Saint-Martin, une demi-douzaine de voitures se sont empilées contre une maison, emportées par la force des éléments. Un peu plus haut, un véhicule est littéralement enterré jusqu'au toit dans la boue. La police, les pompiers et plusieurs dépanneurs sont en ce moment même en train de les dégager.
Et qu'en est-il des habitants que vous avez croisés, David ?
On sent les gens encore hagards et choqués par ce qui les a frappés hier soir. Évidemment, certains ont tout perdu, à l'image de cet hôtelier-restaurateur qui, après le Covid, n'a aujourd'hui tout simplement plus de local. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de victimes mortelles pour autant qu'on sache. La solidarité et l'entraide prédominent. On donne un coup de main comme on peut, parfois en jouant de la pelle, en proposant un hébergement ou juste en offrant un peu de café. Tout le monde se serre les coudes et ça réchauffe le cœur de voir la réponse unanime et fraternelle des villageois devant ce coup du sort.
Merci David. Et on rappelle que jusqu'à nouvel avis, il est fortement déconseillé de consommer l'eau du robinet dans le secteur Corneau-Cressier. Les autorités communales procèdent depuis ce matin à une distribution de bouteilles d'eau. La situation pourrait durer encore quelques jours. Et quant aux caves et aux rez-de-chaussée inondés, vous l'avez entendu, l'eau ne peut pas encore y être pompée par les pompiers. La rivière doit d'abord être remise dans son lit. Parmi les habitants du village concerné, nous avons rencontré ce matin un villageois dévasté par la situation. José Ferreira, le patron cuisinier de la Croix-Blanche depuis 1988, a vu son restaurant traversé de part en part. Écoutez son témoignage.
C'est la première fois que l'eau est sortie par les fenêtres. Regardez, elle est partie par ici. Ça se voit bien l'eau à l'auteur où elle était. Regardez l'eau. Imaginez bien que tous mes machins, tout est foutu, madame. Tout est foutu. On ne peut rien dire d'autre. Regardez-moi, tout mon stock de cuisine, tout le bordel, tout est foutu, madame. L'entrée, madame, tout est entré. L'eau est sautée par les fenêtres, madame. Les tables, on ne les voyait pas. Moi, j'étais haut et je voyais, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et puis voilà, regardez mon parking, là, tout mon machin. Regardez tout le monde, les tables, tout est, voilà. C'est pour ça que tout le monde me dit ça va, il faut dire oui, bien sûr, il faut dire oui, mais voilà.
Et si les dégâts sont si importants, c'est que la cellule orageuse qui s'est abattue hier soir sur Cressier était, au vu de sa morphologie, une super cellule. Frédéric Glacet, météorologue à Météo News.
C'est des cellules orageuses qui sont très très puissantes. Elle est remontée dans un courant de sud-sud-ouest. Elle n'était pas totalement immobile, mais disons qu'elle se déplaçait très faiblement. Et cette cellule a touché le bassin lémanique ou la région de Montreux aux environs de 18 heures, grosso modo. Et puis en remontant, elle s'est encore intensifiée. Et puis c'est grosso modo justement à la hauteur de Cressier qu'elle a atteint son intensité la plus forte. Donc là, on était sur des intensités pluviométriques qui pouvaient dépasser localement les 150 à 200 mm/h. Et on voit qu'il est tombé plus de 35 à 40 litres en l'espace d'une heure. Mais le gros de l'intensité s'est fait sur 10 à 20 minutes. Donc ça fait énormément de pluie sur un bassin versant, donc de ces deux rivières, en très très peu de temps. Et ce qui explique justement ces intempéries dues essentiellement au débordement de cette rivière, puisque vous pouvez avoir par endroits des cumuls de pluie aussi intenses, mais sans avoir forcément des conséquences comme celle-là.
Et les intempéries ne sont peut-être pas terminées. Des pluies sont à nouveau annoncées ce soir et font craindre une deuxième vague d'inondations. Étant donné que les cours d'eau n'ont pas encore retrouvé leur lit, des grosses précipitations pourraient suffire. Une partie des habitants de Crécier pourrait donc être évacuée en fonction des prévisions météo. La décision sera prise cet après-midi à 15h30. Les explications de Jean-Bernard Simonet, président de la commune de Crécier.
Tout dépend des annonces qui sont faites, puis les risques de pluviométrie sur le village, ben à ce moment-là, on prendra une décision si on va évacuer la population dans le haut du village ou pas. Ou dans les endroits délicats qui ont été frappés fortement la nuit passée. Là, on va faire le nécessaire d'évacuer les habitants.
Mais les quartiers exacts, ça sera défini que cet après-midi?
On ne peut donner aucune garantie, là, parce qu'on ne sait pas comment ça va se produire. Hein, ça. Si ça vient gentiment, on peut peut-être canaliser. Si c'est... comme ça a été hier soir, coup par coup, on est impuissant à un moment donné. C'est ça le problème.
Un dossier réalisé par Stéphanie Wenker, Aude Raymondi et Sarah Massy. Il n'y a pas que l'entre-deux-lacs Neuchâtelois qui a été fortement touché par des inondations hier soir. La région d'Orvin, dans le Jura bernois, a aussi été largement arrosée. Le ruisseau Lorvin est sorti de son lit peu avant 21h et l'eau est montée de plus d'1,20 m en quelques secondes. Une cinquantaine de maisons ont été inondées. Ces intempéries n'ont pas fait de blessés, mais des chevaux ont pu être sauvés in extremis. Une soixantaine de personnes ont été mobilisées. La situation est désormais sous contrôle. Une foison de rendez-vous culturel pour égayer l'été. La Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels propose une saison estivale. Environ 50 concerts et 50 représentations seront au menu dans deux lieux, la cour du château de Neuchâtel et le chapiteau de Circobello à Beau-Site à La Chaux-de-Fonds. L'événement se tiendra du 14 juillet au 22 août. La FNAC prend à sa charge l'organisation et les infrastructures. Grâce à des soutiens publics, les artistes pourront ainsi repartir avec l'entier des recettes. Mais la question financière n'est pas la plus essentielle pour Mathieu Béglin, secrétaire général de la Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels.
Avant la question financière qui est évidemment nécessaire, mais il y a le fait de rejouer, de retrouver un public, de pouvoir à nouveau exercer son métier simplement, déjà ça procure une joie assez parfaite.
Parce que tous les théâtres ne pourront pas effectivement accueillir tout ce qui a été produit pendant cette période de pandémie.
Non, évidemment, théâtre, salle de concert et autres, et c'est pareil pour des salles d'exposition, enfin, c'est pas possible de tout reprendre. Ou alors si on reprend tout ce qui n'a pas pu jouer, ça veut dire qu'on n'a plus de place pour quoi que ce soit de nouveau, donc c'est déplacer le problème. Donc l'idée, c'était vraiment de permettre ces retrouvailles, d'essayer de permettre aux différents ensembles, groupes, compagnies de pouvoir aussi jouer, se produire, boucler leur production et puis espérer pouvoir relancer quelque chose prochainement dans des saisons qui seront un peu moins saturées grâce à ce qu'on a pu faire.
Des propos recueillis par Sonia Bernauer-Mia. Saison estivale, c'est donc du 14 juillet au 22 août à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Entre l'utilisation des cartes bancaires et l'argent liquide, le cœur des Suisses penche de plus en plus du côté du numérique. C'est ce que relève une étude de la Banque nationale suisse présentée ce matin à Berne. En 3 ans, de 2017 à 2020, les paiements par carte, avec code ou sans contact, ont progressé de 27 à 46%. La crise du Covid a accéléré ce mouvement, mais le numéraire résiste. 97% des Suisses disent avoir de l'argent liquide dans leur porte-monnaie ou à la maison et 92% ont une carte de débit. Philippe Schnell, responsable des circulations numéraires à la BNS.
Cela montre qu'en fait que la population suisse apprécie la liberté de choisir entre les différents moyens de paiement. C'est en fonction surtout du montant et du lieu de paiement qu'il est judicieux de disposer de différents moyens de paiement. Entre amis, c'est surtout les espèces qu'on utilise et dans les magasins, plutôt la carte de débit.
Le fait que les gens gardent chez eux quelques centaines de francs alors qu'ils ont une carte de crédit, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un problème de confiance quelque part?
Les espèces qui sont à la maison, c'est plutôt pour des situations imprévues qu'on peut avoir. En période de crise, par exemple, il pourrait ça survenir qu'on n'arrive plus à utiliser les moyens de paiement pour une raison ou une autre. Donc on serait obligé d'avoir des espèces pour faire les paiements.
Et si les jeunes utilisent davantage la carte de crédit et de débit, l'étude montre qu'il n'y a cependant pas de fossé générationnel. En football, Max Veloso est de retour à Xamax. Il s'est vu proposer un contrat d'une saison par le club de Challenge League. Sans contrat depuis le 1er janvier, le milieu de terrain de 29 ans portait auparavant les couleurs de Sheriff Tiraspol en Moldavie. Veloso a joué à la Maladière en 2011-2012, puis de 2015 à 2019. Il a également porté le maillot de Bienne, Vaduz, Sion et Lausanne. Pas d'alcool, pas d'embrassade, pas d'acclamation et pas d'autographe. Les organisateurs des Jeux de Tokyo qui se tiennent du 23 juillet au 8 août ont dévoilé de nouvelles règles très strictes pour les spectateurs. La présidente du comité d'organisation indique que l'ambiance festive devra être supprimée pour organiser ces Jeux en toute sécurité. Elle admet que les organisateurs devront faire preuve de créativité pour alimenter quand même une atmosphère positive.
Quelle heure est-il? 12h26, pardonnez-moi.
L'heure du journal de l'Euro, sauf erreur.
Ça doit être ça, non? Allez, 3, 2, 1, on va voir. Ah ouais, c'est ça.
Le journal de l'Euro.
Avec le Lobby Bar à Neuchâtel. Pour vivre intensément les meilleurs moments foot. Restauration sur réservation sur lobbybar.ch.
Et la nouvelle VW ID4 à découvrir chez Automobile Seine à Neuchâtel, Yverdon et La Chaux-de-Fonds. Automobile Seine, bien plus qu'un garage.
La Suisse est presque sûre de son sort en huitième de finale de l'Euro. À 99%, la Nati jouera contre le vainqueur du groupe F à déterminer entre la France, l'Allemagne ou le Portugal. Le match aura lieu lundi prochain à Bucarest, en Roumanie. Un scénario presque improbable qui comprend par exemple une défaite de l'Espagne face à la Slovaquie et une victoire 4-0 de la France sur le Portugal verrait la Suisse affronter la Belgique ce dimanche à Séville. Autrement dit, la Suisse héritera dans tous les cas d'un très gros morceau. Mais pour l'attaquant de la Nati, Brelembolo, un seul but est à atteindre, quel que soit l'adversaire.
Passer le 8e, je crois. C'est en rêve de tout le monde. Je crois pas que de cette équipe, mais de tout un pays. On le sent. C'est une pression, mais c'est une pression positive. Je crois qu'il y a pire dans ce monde. Et on le prend avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de responsabilité. Et on doit travailler. C'est le travail. Après, il y a deux équipes qui rêvent, qui ont but, et la meilleure équipe gagnera, j'espère.
Hier soir, l'Angleterre a terminé en tête du groupe D. Elle s'est imposée 1-0 contre les Tchèques qui étaient déjà qualifiés. De son côté, la Croatie a composté son ticket en battant l'Écosse 3-1. Les vice-champions du monde s'emparent du coup de la deuxième place. Les deux équipes ne savent pas encore qui elles doivent affronter. Et cet après-midi, dans le groupe E, c'est d'abord l'Espagne qui va jouer sa survie dans la compétition. Dès 18h, la Aurora affronte la Slovaquie dans un match qu'elle ne doit absolument pas perdre sous peine d'être éliminée. La Suède, déjà qualifiée, attend la Pologne. Les Polonais sont aussi obligés de s'imposer pour continuer la compétition. Et le match phare de cette dernière journée des phases de poule verra la même affiche que la finale de l'Euro 2016. La France affronte le Portugal à 21h à Budapest dans le groupe F. Les Lusitaniens ne doivent pas perdre pour décrocher leur ticket, alors que les Français, déjà qualifiés, visent la première place du groupe. Pour le sélectionneur Didier Deschamps, l'équipe de France ne va pas tout faire pour éliminer le Portugal. Didier Deschamps.
Sincèrement, non. Les intentions qui sont les nôtres et l'ambition qui est la nôtre, c'est d'obtenir le meilleur résultat possible avec des conséquences ou une incidence, évidemment, sur le classement dans le groupe et accessoirement sur l'adversaire, le Portugal. Mais le fait de déjà penser à nous et l'ambition qui est la nôtre, je vous le répète, c'est jouer ce match-là pour aller chercher le mieux possible.
Et dans l'autre match du groupe, l'Allemagne doit valider sa qualification face à la Hongrie avec un nul ou une victoire. Les Suisses regarderont donc avec attention ces deux affiches qui décideront de leur destin. Et dès 13h, retrouvez notre émission spéciale Le Café de l'Euro pour tout savoir de cette compétition. Aujourd'hui, Jean-Paul Pitchy reçoit le footballeur justement de retour à Xamax, Max Veloso. Très bon appétit.
Le journal de l'Euro avec l'Audi Q4 e-tron à découvrir chez Automobile Seine à Neuchâtel, Yverdon et La Chaux-de-Fonds. Automobile Seine, bien plus qu'un garage.
Il est 12h30 sur RTN. Avec des nouvelles de la météo et des nouvelles qui ne sont pas forcément excellentes pour ceux qui ont subi des inondations, puisqu'on nous annonce encore quelques pluies possibles. Mais jusque-là, il devrait y avoir quand même un temps assez ensoleillé et chaud jusqu'à l'arrivée de la fin de la journée, disons de l'après-midi, avec des orages principalement en montagne mais qui pourraient déborder en plaine, en étant encore parfois fort pour demain et vendredi. On nous annonce un temps instable, changeant, avec encore des averses et des orages, surtout dans l'après-midi. Le beau devrait revenir pour ce week-end.